Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
L'Atlantide fait rêver. Mythe ou réalité, elle est le symbole de la fugacité des choses. Même les montagnes, nous avait dit Michel Serres à ce micro, oui, même les montagnes disparaissent. Alors, à plus forte raison, une île. Et là, c'est Platon qui l'a dit. Amandine Marshall, égyptologue, nous apporte de nouvelles informations et nous entraîne dans une enquête qui va peut-être élucider cette énigme. Atlantide, un mythe de l'Égypte antique ? Point d'interrogation. C'est le titre de son ouvrage édité par les éditions Mondes Antiques. Amandine Marshall, bonjour.
Bonjour.
Alors, égyptologue, archéologue et écrivaine, vous étiez venue nous parler de l'Égypte et de ses momies, mais aussi de la maternité, de l'enfance en Égypte ancienne, etc. Nous avons eu le plaisir de vous recevoir à plusieurs reprises. D'où mon étonnement de vous voir vous intéresser à l'Atlantide. Mais on ne saurait détourner une passionnée de l'objet de sa passion. Nous allons le découvrir dans un instant. Avant toute chose, je dois vous avouer que je ne connaissais l'Atlantique qu'à travers le roman de Pierre Benoît, paru en 1916. Alors, grand succès des éditions françaises, avec 1 722 000 exemplaires. Autant dire tout de suite à nos auditeurs que je doute fort de la véracité des informations qu'apportait Pierre Benoît sur l'Atlantique. Et Platon, on va se poser la question. Mais vous, Amandine Marshall, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'Atlantique, qui semblait vraiment hors du champ égyptien ?
Alors, tout à fait. Effectivement, la réponse, elle est assez simple. C'est que j'ai toujours eu deux passions qui sont l'Égypte ancienne et la mythologie grecque. Et donc, depuis 6-7 ans à peu près, je travaille une thèse d'habilitation sur le cheval dans les mythes grecs. J'ai d'ailleurs publié plusieurs livres sur la mythologie grecque. Donc, c'était assez logique, finalement, de s'intéresser à ce sujet, puisqu'en fait, j'ai la chance, du fait de ces deux centres d'intérêt, de pouvoir pratiquer les sources anciennes, aussi bien égyptiennes que grecques. Et en fait, c'est en écrivant les contes de Thoth, donc c'est un livre pour enfants, de fables, de contes et de mythes de l'Égypte antique, que je me suis rendu compte qu'un conte égyptien, en fait, avait énormément de ressemblances avec le mythe de l'Atlantide de Platon. Et donc, en fait, au départ, c'était vraiment une curiosité personnelle, donc je suis partie voir le mythe originel, ce qui était écrit. Et puis je me suis dit, à mon avis, il y a trop de coïncidences.
Et donc c'est Platon qui a été sous le feu de votre regard.
Alors effectivement, alors Platon, mais comme vraiment, alors pour le coup, j'y connaissais pas grand-chose. Je dirais, allez, à peu près comme tout le monde, c'est-à-dire beaucoup de bêtises finalement. Je ne savais même pas en fait quand je m'y suis intéressée que Platon était vraiment le premier. Donc j'ai vu ce qu'il avait écrit.
C'est le premier. Alors voilà, vous nous apprenez ça. C'est le premier à avoir parlé de l'Atlantide.
Oui, puisqu'en fait c'est lui qui a inventé l'Atlantide. Mais ça, c'est vrai qu'au début de mes recherches, j'en avais pas conscience. Donc c'est au bout d'un moment, en faisant justement ces travaux, en essayant de repérer un petit peu qui avait écrit sur l'Atlantide, que je me suis rendu compte qu'en fait, par exemple, tout commençait avec Platon, et qu'après on avait d'autres auteurs anciens qui en parlaient, mais le premier était Platon. Et en m'intéressant vraiment à ces deux écrits, puisque en fait il y a deux écrits, le Timée et le Critias, qui nous parle de l'Atlantide.
Oui, alors déjà, pourquoi deux écrits ? C'est deux écrits très différents ?
Alors, c'est des écrits complémentaires. En fait, on a un écrit qui va être axé sur l'Atlantide, sur un aspect historique, et le second est sur l'Atlantide, sur un aspect mythologique. Donc, les deux, en fait, sont à des niveaux différents, sont complémentaires, et en même temps, présentent pas mal de contradictions. Notamment sur la façon
dans la partie historique du moins,
pas que sur la façon dont Platon en fait va apprendre donc ce supposé mythe de l'Atlantide, puisque lui il veut convaincre justement son auditoire que l'Atlantide et les Atlantes ont existé. Et donc on a une première grosse contradiction en fait sur la façon dont il va apprendre ce mythe. Donc je ne sais pas si on peut le détailler un petit peu.
Et est-ce qu'il y a vraiment des contradictions entre le livret intitulé Latiné et l'autre livret intitulé le Critias ? Est-ce qu'il y a vraiment des contradictions importantes entre les deux, vraiment ?
C'est ce que je viens de dire.
Oui.
Il faudrait juste essayer de me laisser répondre. Je suis en train de vous l'expliquer.
Ah oui, d'accord.
Oui, donc en fait, on a donc à la fois des contradictions, donc notamment sur la géographie de l'île, mais aussi donc, et c'est ça le plus intéressant en fait, des contradictions sur la façon dont Platon va apprendre donc ce mythe de l'Atlantide. En fait, il n'apprend pas, mais il nous explique qu'il a appris. Donc dans un cas, en fait, il nous dit que c'est son oncle qui, lorsqu'il avait 10 ans, a entendu son grand-père en parler. Son grand-père le tenait de Solon, qui est une des personnalités grecques de l'Antiquité, parmi les plus importantes. À l'époque de Platon, on le considère quand même comme un des 7 sages de la Grèce ancienne, donc c'est pas rien. Et donc, son oncle l'aurait entendu de son grand-père, qui lui-même l'aurait entendu de Solon quand il était plus jeune. Et Solon tenait en fait ses informations de l'Atlantide des prêtres égyptiens. Et donc ça, c'est la première version qu'on va avoir en fait dans le Timée de l'origine de la connaissance de Platon. Sauf que très certainement, il se rend compte que son récit est un peu faible, puisque en fait, il base son récit sur les souvenirs d'un enfant qui a 10 ans. Et quand on voit les tartines qu'il nous donne, finalement, c'est pas crédible. Un enfant n'aurait pas pu retenir autant de détails. Chose. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le Critias, il change finalement son fusil d'épaule. Et il nous dit qu'en fait, tout ce qu'il le sait parce que son oncle, Critias, en fait, avait conservé les manuscrits de Solon chez lui. Et donc, c'est comme ça qu'il a eu accès. Alors, là où c'est problématique, c'est que si son oncle avait vraiment les manuscrits, pourquoi il ne les a pas montrés à Platon ? Puisque Platon nous dit que c'est son oncle qui lui raconte. Et puis surtout, ce qui est problématique, c'est que dans la première version, il nous dit qu'en fait, il n'y a pas de texte, il écrit.
Donc, il se contredit.
Donc, il se contredit. Alors après, on n'est pas une contradiction près, puisqu'effectivement, quand on remonte finalement la chronologie des personnages et donc, entre guillemets, des faits, on se rend compte qu'en fait, on a quand même un gros problème, c'est qu'au moment où le grand-père Critias, l'ancien, est censé avoir entendu donc le récit de l'Atlantide par Solon, le problème, c'est que Solon est déjà mort au moment où Critias, l'ancien, va naître. Donc là, on a quand même un souci, mais... À l'époque, bon, alors déjà, Platon ne peut pas imaginer que son œuvre va passer à ce point-là à la postérité. Ça va vraiment bien au-delà de ses attentes. Et puis, à l'époque, en fait, on ne se rend pas compte, effectivement, qu'il y a ce problème, on va dire, de chronologie. Mais c'est très important. Platon, en fait, il a besoin de garants historiques. Platon, il n'est pas connu comme il est connu aujourd'hui. Il n'a pas
Est-ce que les gens avaient la possibilité de recouper toutes ces dates, de recouper toutes ces informations ?
Justement, non. Oui. Donc, c'était quelque chose qui était quand même beaucoup plus flou à ces époques-là qu'aujourd'hui. Et Platon a vraiment besoin de garants historiques pour son récit, pour que, justement, on ne puisse pas mettre en doute le contenu de son récit. Et donc, il va faire appel, finalement, à deux garants historiques. Le premier, c'est Solon. Et alors, je peux vous assurer qu'en Grèce ancienne, si Solon l'a dit, c'est que c'est vrai. C'est pas pour rien qu'effectivement, il prend Solon comme garant, finalement, du récit qu'il rapporte. Et les seconds garants, ce sont les prêtres égyptiens. Et dans l'Antiquité grecque...
Oui, et c'est là où je me suis dit, ben voilà pourquoi Amandine Marshall, évidemment, ça l'intéressait particulièrement, évidemment.
Bien sûr, parce que donc, les seconds garants de l'histoire que raconte Platon, ce sont les prêtres égyptiens. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'Antiquité grecque, de façon vraiment générale, les prêtres égyptiens étaient considérés comme des espèces d'archivistes, des espèces de garants de la mémoire ancestrale de la Méditerranée.
Parce qu'ils écrivaient.
Alors, ce qui n'était pas du tout le cas, mais effectivement, ils consignaient beaucoup de choses. Et ce qui, effectivement, est impressionnant, c'est qu'ils ont toujours eu des archives royales, pas des archives historiques, mais des archives royales très importantes. D'ailleurs, à Abydos, vous avez un temple qui est le temple de Séti Ier.
Oui.
Et en fait, Ramsès II, son fils, va faire réaliser sur une des parois du temple une représentation. Donc, on le voit en prince, son père étant pharaon derrière. Et en fait, il montre leur adoration à des cartouches. Donc, le cartouche, en fait, c'est tout simplement un symbole dans lequel est écrit le nom d'un roi. Et en fait, devant eux, on a 76 cartouches royaux. Donc, 76, c'est quand même énorme. Le plus ancien mentionne le roi Méni, qu'on a associé à Narmer. Méni a régné aux alentours de 3050 avant Jésus-Christ, donc il a régné 1800 ans à peu près avant Séti Ier.
Oui.
Donc à cette époque-là, on a quand même des renseignements qui datent de 1800 ans. Donc c'est quelque chose qui est absolument incroyable, qui forcément a interpellé, fasciné et certainement émerveillé les Grecs anciens. Et donc, en voyant ça, finalement, ils ont peut-être quand même un peu surfantasmé l'importance de ces archives. Et surtout, Ce qui est génial, parce que Platon l'a fait, mais il n'est pas le premier. Dion de Prusse l'a fait aussi par rapport à la guerre de Troie. On a plein d'auteurs grecs qui, en fait, pour valider leurs propos,
se réfèrent,
donnent comme caution, en fait, les prêtres égyptiens.
D'accord.
Et c'est exactement ce que va faire Platon. Platon dit que Solon, qui donc déjà est une sommité, tient son récit des prêtres égyptiens. Et donc, de ce fait, à partir de ce moment-là, tout ce qui peut être dit derrière, c'est forcément vrai, parce que les prêtres égyptiens l'ont dit. Et d'ailleurs, le géographe grec Strabon, qui est donc entre le 1er siècle avant et le 1er siècle après Jésus-Christ, Strabon va l'éclairir. Il va dire, on aurait pu penser, en gros, il dit que c'était qu'une pure invention, mais c'est vrai car Solon et les prêtres égyptiens le disent. Et donc là, on a tout compris. C'est-à-dire qu'en fait, Platon n'avait pas eu cette intelligence-là, finalement, alors c'est de la filouterie, mais c'est de l'intelligence, de prendre ces références-là, donc Solon et les prêtres égyptiens, oui, peut-être qu'on aurait entendu parler du récit de l'Atlantide, mais bon, voilà, comme une espèce d'anecdote, et en fait, ça n'aurait pas du tout eu la portée que ça a eu par la suite, d'abord auprès, en fait, des autres historiens de l'Antiquité, et puis ensuite, la portée que ça a encore aujourd'hui.
Bien sûr, bien sûr. Alors, on va avancer sur la pointe des pieds. Alors, où peut-on situer l'Atlantide? Point d'interrogation, si elle a existé, si elle avait existé. Platon, où l'a-t-il situé?
Alors, Platon...
J'ai oublié de vous dire, ce qui m'a frappé, hors antenne, on en a un petit peu parlé, c'est que dans le livre de Pierre Benoît, il le situe dans le Haut-Gard. Or, là, il y a quand même un léger glissement, il me semble.
Non. Alors après, il n'est pas le premier à l'avoir
oui,
fait.
Oui, vous m'avez dit que même au pôle Nord, mais ça...
Oui, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Et aussi, pourquoi on entend tout et n'importe quoi? Parce que comme Platon, en fait, produit des contradictions, à un moment donné, il nous parle d'une île qui est allongée, une autre fois, il nous parle d'une île qui est plutôt circulaire, il y a des moments où il nous parle d'une île, d'autres fois d'un continent. Ouais. Donc en fait, ceux qui veulent à tout prix, à toute force, et même c'est ça qui est quand même assez ennuyeux, je trouve, des scientifiques qui veulent démontrer qu'ils ont trouvé, en fait, la localisation de l'Atlantide, tous ces gens-là ne prennent que finalement dans le récit de Platon ce qui les intéresse. Et donc dans mon ouvrage, en fait, j'ai fait une liste, alors elle n'est pas exhaustive, mais elle est quand même déjà conséquente, de toutes les contradictions que Platon fait dans son récit. Et puis là, bonjour pour arriver à trouver du coup un endroit qui pourrait effectivement coïncider, parce que ce n'est pas possible. Donc on a ces contradictions-là, et on a aussi des contradictions par rapport à la localisation. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot Atlantide, c'est pas Platon qui l'invente. On a une mer Atlantis, Hérodote en parle. La description qu'il donne de cette mer Atlantis, effectivement, on voit que c'est l'Atlantique qu'il décrit. On a également comme autre référence à l'Atlantide ou aux Atlantes, le géant Atlas. Atlas, c'est le nom grec au nominatif. Si on le passe au génitif, c'est-à-dire en fait en complément de nom, c'est Atlantos. Et en fait, Atlantos, bien sûr, on va le lier aux Atlantes. Donc déjà, il ne crée pas le mot. Et en fait, l'intelligence... Et vraiment, la subtilité de Platon, c'est qu'il puise un peu partout des références historiques, des références qui veut nous faire croire qu'elles sont historiques.
Il embrouille tout le monde.
Ah, mais alors c'est un embrouilleur de première, mais un embrouilleur de génie. Ça, il faut quand même le lui reconnaître. Et c'est ça, en fait, qui fait la force, c'est que beaucoup de gens disent « Oui, mais ça, c'est vrai, ça fait référence à... »
Il y a même
eu
des chercheurs, des plongeurs qui sont allés voir, non, aussi.
Mais partout. Mais même Hitler avait lui-même, en fait, envoyé des experts avec mission de retrouver les Atlantide, parce que supposément que les Ariens descendaient des Atlantes. Voilà, oui. Donc c'est vrai qu'on a pu avoir parfois des délires absolument absolus par rapport à cette localisation de l'Atlantide. Si on veut être honnête, en reprenant donc le récit de Platon et notamment les descriptions qu'il en donne, on ne peut pas, en fait, c'est pas qu'on n'a pas, c'est qu'on ne peut pas avoir de lieu qui correspond, en fait, à ce qu'ils disent.
Même pas l'Atlantique.
Non, puisque en fait,
parce qu'à un moment donné, vous parlez des colonnes d'Hercule.
Alors,
c'était Gibraltar.
Alors, c'est pas moi qui en parle.
Pas...
Voilà,
c'est oui, Platon. Je vous assimile à Platon. Oui. Rien que ça.
Platon en parle, mais c'est logique aussi. Il faut qu'en fait, l'histoire qu'il présente, elle soit quand même située géographiquement dans une zone où on peut puisse pas forcément aller trop rechercher. Et donc, ça fait aussi partie du fait que bon, on est quand même extrêmement éloigné de la Grèce. Donc, de le placer à un endroit qui est aussi loin, la mer Atlantis ou la mer Atlantikos, bon, finalement, voilà, on la connaît. Donc, ça reste logique. Et donc, si vraiment on est motivé à chercher une Atlantide, on va dire, physique, ben, moi, j'engage toujours des gens. Il y en a une, effectivement, c'est Pline l'Ancien qui en parle. Il nous parle d'une île Atlantide, à son époque, qu'on pouvait encore voir. Donc, vraisemblablement, on a une autre île Atlantide à identifier. Donc, une île qui, cette fois-ci, là, n'était pas immergée. Et puis, si vraiment donc, on veut aller par ce biais-là de chercher donc, une localisation précise d'une île, on a donc la fameuse île du Comte égyptien qui se situe en Méditerranée et qu'il faudrait aussi retrouver.
D'accord. Alors, revenons à la mythologie qui est quand même très intéressante. Donc, si l'Atlantide avait existé, je vais mettre vraiment maintenant le conditionnel, comment serait cette île ? J'aimerais, Amandine Marshall, que vous nous lisiez, si vous voulez bien, un extrait à la page 28. On parle du dieu Poséidon qui fortifia et l'isola du cercle, en cercle. Alors, page 28.
Oui, parfait. Alors, le dieu Poséidon la fortifia et l'isola en cercle. À cet effet, il fit des enceintes de mer et de terre, petites et grandes, les unes alentour des autres. Il en fit deux de terre, trois de mer, et les arrondit, pour ainsi dire, en commençant à partir du milieu de l'île, dont elles étaient partout à égale distance. Ainsi, elles étaient infranchissables aux hommes, car il n'y avait encore, alors, ni vaisseau, ni navigation. Vous voulez que je continue encore ?
Oui, oui.
Ils commencèrent par jeter des ponts sur les fossés d'eau de mer qui entouraient l'antique métropole pour ménager un passage vers le dehors et vers le palais royal. Ils creusèrent depuis la mer jusqu'à l'enceinte extérieure un canal de 3 plètres de large, c'est-à-dire à peu près 90 mètres, de 100 pieds de profondeur, donc à peu près 30 mètres, et de 50 stades de longueur, à peu près 8 mètres 88. Et ils ouvrirent au vaisseau venant de la mer une entrée dans ce canal, comme dans un port, en y ménageant une embouchure suffisante pour que les plus grands vaisseaux y puissent pénétrer. En outre, à travers les enceintes de terre qui séparaient celles d'eau de mer, vis-à-vis des ponts, ils ouvrirent des tranchées assez larges pour permettre à une trière de passer d'une enceinte à l'autre, et par-dessus ces tranchées, ils mirent des toits pour qu'on pût naviguer dessous, car les parapets des enceintes de terre étaient assez élevés au-dessus de la mer. Le plus grand des fossés circulaires, celui qui communiquait avec la mer, avait 3 stades de large, c'est-à-dire à peu près 532 mètres, et l'enceinte de terre qui lui faisait suite en avait autant.
Bon, alors, ce qu'il y a de drôle, c'est vous continuez, et là, ce n'est plus Platon qui parle. Platon, qui n'a donc jamais vu l'Atlantide de ses propres yeux, rapporte de mémoire les propos de son oncle et la décrit pourtant avec force de détails, souvent fastidieux pour ne pas dire ennuyeux à la longue, car il faut savoir que la description que le philosophe donne de l'Atlantide dans le Critias fait quand même dans les 1800 mots. Voilà. Alors, c'est drôle parce que je me dis, mais quelle folle imagination, quel créateur ce Platon !
Ah oui, complètement.
Parce que là, il a vraiment donné beaucoup de détails, il a créé une cité.
Ah mais c'est ça en fait, on a énormément de détails parce qu'il faut vraiment que son récit soit vraiment bien construit pour que ça rentre bien dans les mémoires, donc c'est pas quelque chose qui doit être flou, donc vraiment il construit aussi bien mentalement finalement que d'un point de vue littéraire l'Atlantide.
Oui, et alors en plus il loge les Atlantes, alors au départ c'était une cité idéale si j'ai bien compris. Pour Platon.
Alors oui, parce que donc l'Atlantide en fait va servir de but. Donc il y a vraiment un but parce que si Platon écrit l'Atlantide à la période où il l'a écrite, ce n'est pas pour rien. Justement, il avait une excellente raison de le faire. Mais c'est vrai qu'après, d'un point de vue, on va dire autrement un peu plus philosophique. Il y a une vraie réflexion, en fait, à l'époque de Platon. En gros, on va dire c'est un petit peu n'importe quoi à Athènes. On ne respecte plus les choses comme avant. Enfin, il y a une espèce de nostalgie, finalement, d'une Athènes avec des lois fortes, avec des gens qui respectent les lois. Et c'est exactement ce qu'on retrouve, finalement, chez ces Atlantes. qui donc par ailleurs, après voilà, hein, sont orgueilleux, sont vraiment un but d'eux-mêmes, mais ils ont au départ donc une organisation qui fait aussi qu'ils vont devenir très puissants. Et finalement, on a quand même par ce texte-là une critique sous-jacente finalement de la société athénienne à l'époque de Platon. Mmh,
d'accord. Il y avait quand même, c'était quand même aussi des colonisateurs prédateurs, d'après ce que j'ai compris. Ou alors est-ce que c'est moi qui les assimile à ceux dont vous allez nous parler, c'est-à-dire les peuples de la mer?
Alors, les Atlantes chez Platon, effectivement. Donc, on a une partie qui, finalement, nous montre un peu l'image d'une société idéalisée, en tout cas parfaite, aux yeux de Platon. Mais effectivement, après, on va avoir un autre texte qui s'enchaîne, qui, finalement, est l'envers du décor, la part d'ombre, finalement, de ces Atlantes. Mmh. On en a une explication par le texte mythologique qui nous dit qu'en fait, ce sont les descendants de Poséidon et donc ils sont imbus finalement de cet héritage divin. Ils vont utiliser énormément les ressources de l'Atlantide et notamment des ressources de mythos, bien sûr.
Oui.
Des ressources minières pour se fabriquer des armes avec lesquelles finalement ils vont faire la guerre à un petit peu tout le monde. Et comme ils sont particulièrement avancés, on va dire, d'un point de vue technologique, finalement, ils vont réussir, au dire de Platon, de se rendre maître de quasiment toute la Méditerranée.
Mais Platon sauve l'honneur des Athéniens.
Ah, tout à fait, parce que c'est exactement le but. En fait, ce que Alors, en faisant ce livre, moi, je me suis rendu compte d'une chose qui est quand même assez incroyable, c'est que donc, bon, moi, le sujet ne m'intéressait pas forcément plus que ça, donc c'est vrai que, très honnêtement, voilà, je n'y connaissais pas grand-chose, mais je me suis rendu compte que la plupart des gens qui s'intéressent à l'Atlantide et qui trouvent ça génial et ne connaissent pas, en fait, le texte de Platon, et donc, finalement, n'ont que des connaissances par des articles.
Je ne savais pas que, à l'origine, c'était Platon qui avait parlé de l'Atlantide.
Oui, mais c'est ça qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'en fait, il y a vraiment très très peu de gens qui le savent. Et finalement, tout le blabla, parce que c'est vraiment du blabla hein, qu'on entend à la télévision, alors National Geographic, ils sont très très forts pour ça. Régulièrement, on a des émissions sur les mystères de l'Atlantide, où finalement, on s'écarte complètement de l'origine pour partir dans des domaines, mais où c'est vraiment du gros n'importe quoi. Donc forcément, mon temps que scientifique, ça me fait un peu hurler. Parce qu'on a toujours l'impression que, en fait, et notamment par rapport à l'Égypte, que s'il n'y a pas de mystère, d'énigme, de secret, ça ne peut pas intéresser les gens. Et donc moi, ça m'énerve profondément parce que j'ai l'impression qu'on prend les gens pour des idiots et que si on enlève ces côtés fumeux, finalement, de mystère et autres, on ne peut pas intéresser les gens. Or, c'est pas vrai, l'Égypte est d'une richesse incroyable, la Grèce aussi. Donc oui, bien sûr qu'on peut complètement intéresser et passionner les gens sans qu'à tout bout de champ, il y ait des mystères, des énigmes, des malédictions. Oui. Et donc, c'est vrai que les gens, finalement, parlent beaucoup de l'Atlantide, mais à partir finalement de propos qui sont complètement faux, qui sont complètement détournés pour justement insérer des pointes du mystère et autres. Et donc, ce quand même qu'on oublie et qui pourtant est au cœur des deux, finalement, des écrits de Platon, c'est Athènes. Et donc, moi, j'ai fait un petit sondage, en fait, quand j'ai écrit le livre, et notamment auprès de gens qui me disaient qu'ils adoraient l'Atlantide, qu'ils seraient ravis de lire le livre. Et je leur ai dit, mais vous savez qu'on parle d'Athènes dans l'Atlantide. Et donc, bien évidemment, à l'unanimité, on m'a dit que non. Or, c'est quand même le cœur du récit. Le cœur du récit, faut le dire, Platon se contrefout de l'Atlantide. L'Atlantide, c'est une excuse pour mettre en valeur Athènes et surtout pour mettre en valeur l'armée athénienne qui est en fait toute seule, alors que la Grèce est tombée, que l'Égypte est tombée, que la Libye est tombée, que l'Europe est tombée. Que l'Asie mineure est tombée, tout le monde finalement est tombé, sauf les Grecs, c'est un peu comme Astérix et Obélix, hein. c'est la même chose. On a quand même les Athéniens qui, eux, résistent et qui, en fait, tout seuls vont réussir non seulement à défaire les Atlantes, mais finalement à libérer tout le bassin méditerranéen qui était sous l'emprise esclavagiste des Atlantes. Et ça, mais personne ne le sait. Enfin, personne. Pardon, je m'entends bien, je veux dire, la plupart des gens.
Oui.
Ne le savent pas, parce qu'en fait, ils se sont concentrés sur quelque chose qui, au final, fait partie du fantasme. Mmh. Alors que, et alors c'est sûr, c'est un peu moins drôle, mais Platon a une très très bonne raison de mettre l'armée athénienne au cœur du récit de l'Atlantide. Mmh. Et donc, l'Atlantide sert son propos.
C'est un bon publicitaire.
Ah, c'est un excellent publicitaire, oui.
Alors, justement, que que raconte Platon de la disparition des Atlantes ? Parce que finalement, vous dites Zeus veut les punir, et qu'est-ce qui leur arrive dans l'histoire,
la question est très intéressante. Par contre, il y a deux réponses puisqu'on a deux textes. Donc, sur le texte mythologique, effectivement, Zeus convoque les dieux parce qu'il est furieux contre les Atlantes qui, effectivement, font la guerre absolument à tout le monde. Et donc, il les convoque vraisemblablement dans le but de se débarrasser des Atlantes. On n'a pas la fin du texte. Vraisemblablement, Platon est mort avant d'avoir pu rédiger la fin de ce texte-là. Par contre, ce qui ne fait finalement aucun doute, c'est que c'est Poséidon qui va s'en charger, d'une part parce que c'est le propriétaire de l'île Atlantide, que ensuite c'est le dieu des mers, des océans et des tremblements de terre. Donc il avait encore plus, on va dire, la légitimité de le faire. Et puis d'autre part, parce qu'on voit bien par rapport au récit qui nous est donné, que Zeus compte bien punir les Atlantes. Donc même si là, pour le coup, on n'a pas la fin, on peut présumer sans aucun problème que c'est Poséidon qui va se charger de faire disparaître les Atlantes, finalement en faisant disparaître l'île. Dans la partie historique, ce qui est très intéressant, c'est que donc on repart sur les prêtres égyptiens qui rapportent en fait à Solon que l'événement s'est passé d'ailleurs il y a tellement longtemps que tout le monde l'a oublié, sauf eux, parce qu'ils sont trop forts, ils ont consigné l'événement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit que donc l'armée athénienne en fait a vaincu les Atlantes. Et juste après, donc vraiment, c'est pas quelques jours après, quelques semaines après, c'est juste après, un tremblement de terre, en fait, va secouer l'Atlantide. Et en fait, en quelques heures, l'Atlantide va sombrer sous les flots. Ce qui fait que c'est pour ça que vous, donc en fait, c'est le prêtre égyptien qui s'adresse à Solon, c'est pour ça que vous avez oublié ce qui s'est passé. Parce que l'armée athénienne, finalement, et les Atlantes sont morts.
Tout le monde a disparu.
C'est que moi, je pose quand même la question, on est très bien, mais si à un moment donné, tout le monde est mort, comment eux, ils sont au courant ?
C'est trop logique. Oui. Alors, justement, d'abord, ça se passait à quelle époque, en principe ?
Alors, si on suit les écrits de Platon,
vers 9600
ça s'est passé à peu près 9000 ans avant Solon.
D'accord.
Avant Solon.
Bon, autre chose. Donc, on est bien d'accord. Trop de contradictions entre les deux textes de Platon, trop de contradictions dans les dates, etc. Ça ne colle pas. Est-ce qu'on peut croire les prêtres égyptiens, eux ?
Alors justement, c'est là où je trouvais que c'était intéressant de publier une étude dessus. Vraiment, moi, j'étais partie, en fait, au départ, pas du tout dans l'optique de faire un livre, dans l'optique de faire un article pour faire connaître, en fait, ce conte égyptien qui présente ses similitudes avec le récit de Platon. Et puis, c'est que quand j'ai relu les deux textes de Platon, je me suis dit, mais c'est quand même problématique parce que, en fait, ces deux textes-là, qui ont été donc vraiment étudiés par des grands spécialistes de la Grèce, ils ont été étudiés simplement avec un angle de spécialiste, justement, de la Grèce. Or, Platon n'arrête pas de faire référence à l'Égypte, notamment, mais pas que, mais notamment par le biais des prêtres.
Des prêtres, oui.
Et puis, en fait, il fait dire beaucoup de choses à ces prêtres égyptiens et des choses que des spécialistes de la Grèce ont finalement pris pour argent comptant.
Ah, oui. D'accord.
En disant, mais Platon a dit que les prêtres égyptiens... Et ben en fait,
oui, donc, à partir du moment où il citait les prêtres égyptiens, tout le monde s'inclinait.
Alors, pas forcément, mais... parce que heureusement quand même, on a des spécialistes avaient quand même un certain recul. Mais comme en fait, ils ne connaissent pas la documentation égyptienne comme moi, je la connais, il y a certaines choses où en fait, ils se sont tout simplement trompés. Par exemple, quand... Platon dit que les prêtres égyptiens expliquent qu'ils consignent en fait beaucoup de choses sur les murs des colonnes, sur les murs des temples. Mmh. Moi, je l'ai retrouvé dans des écrits de spécialistes de la Grèce. Or, ce n'est pas vrai. Et c'est là où, en fait, on va dire que l'étude était un peu plus originale que d'autres. C'est que là, on a une égyptologue qui, en fait, s'intéresse à ce mythe en regardant finalement, en posant à plat ce que Platon a écrit sur... les aspects égyptiens de ce mythe pour dire finalement est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Et donc le fait que les prêtres égyptiens écrivent l'histoire, mais même leur propre histoire, hein, sur les murs de temple, non, mmh. les, 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 les colonnes des temples. Les colonnes des temples, elles servent à autre chose, certainement pas à écrire ce genre de détails. Et donc, j'ai pu me rendre compte que parfois, en fait, justement, parce qu'il y avait une méconnaissance de la documentation égyptienne, on a pris, et donc par la suite aussi repris, des articles, des livres, des citations de spécialistes qui sont par ailleurs tout à fait compétents, mais qui, sur cette question égyptienne ou égyptologique, en fait, avaient des lacunes qui leur ont empêché finalement d'avoir le recul nécessaire pour démêler un petit peu, on va dire, le vrai du faux de ce que D'accord. Platon fait dire aux prêtres égyptiens.
D'accord. Vous voyez, je suis tellement passionnée par vos paroles que j'en oublie la pause musicale que nous devons offrir à nos auditeurs. Eh bien, on va leur proposer, puisque tout nous ramène à la Grèce, on va leur proposer une musique grecque.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, je suis en compagnie d'Amandine Marchal qui vient nous parler de l'Atlantide, un mythe de l'Égypte antique, point d'interrogation, et il ne faut pas l'oublier ce point d'interrogation, c'est un livre édité par la maison d'édition Mondes Antiques. Je ne connaissais pas cette maison d'édition.
Non, c'est une auto-édition.
C'est une auto-édition, oui. Ah, mais ça va être suivi d'autres éditions, voilà. Donc.
Oui, il y en a eu d'autres. J'avoue qu'en fait, j'en ai eu un petit peu marre d'être constamment exploitée, voire arnaquée par des éditeurs. Donc, j'ai pris le parti de créer deux maisons d'édition.
Oui.
Le Mondes Antiques. Pour les publications scientifiques. Donc, avant celui-ci, il y a eu un ouvrage, L'enfant et la mort en Égypte ancienne, un pavé de 540 pages sur lequel j'ai travaillé quand même pendant 10 ans, qui vraiment concluait finalement ma thèse sur l'enfance en Égypte ancienne dans la vie quotidienne. Et juste donc ce livre-là sur l'Atlantide, donc un mythe de l'Égypte antique. Mmh. Point d'interrogation. Prochainement, il y aura une biographie scientifique du génialissime Auguste Mariette, qui est un très, très grand égyptologue français, et apparaître en 2022.
Donc, vous aviez
sur la tombe
parlé
de Toutankhamon.
Déjà, un petit mais peu. Pas, oui, un petit peu, c'est ça. Alors, revenons. Vous dites que pour expliquer la nature et certains de ses phénomènes, comme les saisons, par exemple, on faisait appel, dans l'Antiquité, on faisait appel à des mythes. Oui, ça se comprend. Bon, et même maintenant, il y a des gens qui font appel à de drôles de mythes, hein, si j'ose dire. On est prêt à croire, beaucoup de gens sont prêts à croire n'importe quoi. Alors, page 35, par exemple, alors je dis la page, je ne sais pas pourquoi, mais si vous permettez, je vais lire. Dans le temps qui suivit, il y eut des tremblements de terre effroyables, des cataclysmes. Dans l'espace d'un seul jour et d'une nuit terrible, toute votre armée fut engloutie d'un seul coup sous la terre, et de même l'île Atlantide s'abîma dans la mer et disparut. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, cet océan de là-bas est difficile et inexplorable par l'obstacle des fonds vaseux et très bas que l'île, en s'engloutissant, a déposé. Donc c'est Platon qui parle, toujours lui,
toujours avec des propos que vous n'allez pas cautionner, je m'en doute. Non ?
Puisqu'il l'a inventé, en fait, je ne peux pas cautionner.
Non, alors, mais quand même, ce qu'on peut, on peut dire, c'est qu'il y a eu en Méditerranée des événements marquants qui ont traumatisé les populations.
Ah, bien évidemment, donc il y a eu le cataclysme de Terra qui finalement est l'événement volcanique le plus important. Donc Terra, c'est le nom ancien du volcan de l'île de Santorin. Aujourd'hui, c'est l'éruption la plus importante que l'homme ait jamais connue finalement dans son histoire. Une explosion telle d'ailleurs qu'on va voir plus de 20 cm de cendres de ce volcan qui vont arriver en Égypte, quand même à peu près à 800 km de là. Donc c'est quand même assez conséquent. Une éruption qui est tellement forte qu'il va y avoir des tsunamis un peu partout. Une partie de la crête d'ailleurs va être ravagée par ces tsunamis. Alors il y a Terra, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens, on peut comprendre effectivement pourquoi, qui ont essayé de dire qu'en fait, ce que Platon appelle l'Atlantide finalement, c'est l'île de Terra, qui effectivement s'est en partie effondrée sur elle-même. Ce n'est pas la seule éruption, il y a eu d'autres éruptions qui ont fait aussi pas mal de morts un peu partout dans la mer Égée, suite donc à des éruptions volcaniques. Donc Platon en fait a pu effectivement faire référence à ce cataclysme-là, donc ce cataclysme de Terra. Ce qui reste voilà, un petit peu étonnant, c'est qu'on n'a pas de traces mythologiques de cet événement-là, alors que par ailleurs, par exemple, on a d'autres volcans qui sont associés à la gigantomachie. Donc, par exemple, le Vésuve. Sous le Vésuve, on était censé avoir été enterré le géant Mimas, qui était poursuivi par Héphaïstos. Donc, pour rappel, en fait, la gigantomachie, c'est le combat des géants qui se rebellent contre les dieux. Donc, on a un combat terrible et finalement, donc, les géants vont être vaincus et plusieurs de ces géants vont être enfouis sous des montagnes qui, en fait, sont associés, clairement, à des volcans puisque on nous raconte que quand un géant en fait se retournait sur lui-même ou quand il essayait finalement de se libérer, la terre tremblait. Oui, et donc et puis même parfois à la surface du sol, la montagne engendrait des phénomènes un peu particuliers. On n'a rien pour Terra. Alors n'avoir rien ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu. Il y a pu y avoir un mythe et on l'a pas trouvé parce qu'on a plein de mythes qu'on ne connaît que par finalement pour l'instant une personne. Donc si on n'est pas cette personne-là, en tout cas ses écrits, on n'aurait pas le mythe. Donc c'est une possibilité. Après, il ne faut pas oublier que donc on a d'autres volcans dans la mer Égée qui ont pu tout aussi bien finalement inspirer Platon.
D'accord. Justement, alors revenons aux Atlantes. Est-ce qu'on pourrait pas, est-ce que d'une certaine manière, ils n'auraient pas été confondus avec les Crétois, qui ont subi ces cataclysmes, ou avec les peuples de la mer? Parce que là aussi, moi, j'ai été passionnée par ces histoires du peuple de la mer. Je ne savais pas, mais vous savez tellement de choses. Vous nagez comme un poisson dans l'eau dans tout ça. Moi, je découvre. Alors, les Crétois, la Crète aussi a connu. Vous venez parler de ce volcan de Terra, et il y a eu quand même de fréquents conflits également.
Alors, justement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand on veut vraiment donner une réalité, finalement, au mythe, on fait des choix. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, Terra, c'est le volcan de l'Atlantide. Les Atlantes, c'était les peuples de la mer, parce qu'on les a très souvent comparés aux peuples de la mer. À partir du moment, en fait, on a une construction, il faut être quand même un peu plus souple. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que Platon a pu avoir plusieurs sources d'inspiration pour les Atlantes. Donc, en premier lieu, les Crétois, parce que si l'Atlantide a été inspirée par le cataclysme de Terra, en effet, on a une grande partie de la Crète qui a été ravagée par ce tsunami. Et à l'époque de cette éruption volcanique, c'est la Crète qui domine, c'est la civilisation crétoise qui domine le bassin méditerranéen. Et donc, à cause de ces tsunamis, il faut quand même imaginer qu'une très très grosse partie de la flotte crétoise est détruite, qu'on a des ravages absolument terribles sur l'île qui est donc vraiment balayée par ces vagues. Et donc, suite à ce passage-là donc de ce tsunami, la Crète ne va jamais réussir finalement à reprendre le dessus. Après, ce sont les Mycéniens qui donc vont vraiment prendre le relais.
Alors qu'elle dominait Athènes, par exemple.
Alors, ce n'était pas forcément une domination, on va dire, physique ou militaire, mais c'était une domination culturelle et économique. Donc, effectivement, on peut avoir un lien entre les deux. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a un mythe quand même très connu, qui est le mythe de Thésée et du Minotaure.
Du Minotaure, ah oui.
Et en fait, à l'origine de ce mythe, on a donc en fait, un des fils de Minos qui va participer à des jeux funèbres à Athènes. Et en fait, il va se faire assassiner par des Athéniens. Et donc, Minos déclare la guerre à Athènes, qu'il va réussir à dominer. Donc là, quand même, dans le mythe, on a une domination de la Crète sur Athènes. Mmh. Et du fait donc, de leur défaite, les Athéniens vont être contraints en fait, régulièrement, je crois que c'est tous les 7 ans, à envoyer en fait, plusieurs jeunes gens, donc 7 filles et 7 garçons,
en sacrifice
donc, au fameux Minotaure, puisqu'effectivement, aucun d'eux n'arrivait à sortir finalement vivant de ce labyrinthe. Donc là, en fait, dans ce mythe, on a quand même une allusion à un différent assez marqué entre la Crète dominante et Athènes, qui est clairement dominée par la Crète. Mais ça, c'est une des possibilités, puisqu'effectivement, il peut y en avoir d'autres.
Il y a les peuples de la mer. Alors là, moi, j'ai découvert qu'en fait, j'ai même tout noté, je ne saurais même pas le prononcer, l'ensemble de ces peuples, comprenez. Alors, il y avait les Peleusé, les Tchékers, les Chékelesh, les Déniens et les... Attendez, mais c'est... Pour moi, c'est vraiment... Alors, qu'est-ce que c'était que ces peuples de la mer, Amandine Marshall ?
Alors, en fait, les peuples de la mer, donc, c'est une appellation qu'on a donnée. Alors, pourquoi peuple et pas une dénomination plus précise ? Tout simplement parce qu'en fait, on ne sait pas exactement
d'où ils venaient.
D'où ils viennent. Et alors, ce qui est très intéressant,
oui, parce qu'ils
c'est
viennent de la mer, mais en fait, ils viennent d'un continent.
Oui, c'est que on a des textes égyptiens. Une nouvelle fois, donc justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a quand même à nouveau une documentation, cette fois-ci historique, de textes égyptiens qui, à plusieurs reprises, mentionnent en fait des invasions donc, de ces fameux peuples de la mer. Et ce qui est intéressant, c'est que les textes égyptiens nous donnent effectivement des noms de peuples. Et en fait, on voit bien que c'est des coalitions finalement de plusieurs peuples étrangers. Donc on a réussi à en identifier certains.
Et oui, et vous dites, si vous permettez, et si l'identité de ces peuples de la mer, leur incroyable organisation ainsi que leur force spectaculaire qui leur permit d'attaquer et de vaincre maints territoires méditerranéens suscite encore des interrogations à l'heure actuelle, il en était assurément de même dans l'Antiquité.
Oui,
ils faisaient peur et on ne savait pas d'où ils venaient.
Voilà, ils venaient juste de la mer.
De la mer,
voilà.
Oui, voilà.
Mais c'est vrai qu'après, d'où exactement, comment ils sont organisés, on ne sait pas. C'est assez extraordinaire parce que vraiment, en très très peu de temps, dans un laps de temps d'à peu près 200 ans, ils vont ravager toute la Grèce. Ils vont attaquer l'Égypte où ils vont être repoussés au moins à deux reprises. En tout cas, c'est ce que
les
textes royaux... Ah, mais complètement. En Asie mineure, ils vont quand même très très loin dans l'intérieur des terres. Donc c'est vraiment...
Mais est-ce qu'ils ont fait souche ?
Alors non, en fait, c'est ça qui est le problème, c'est qu'en fait, on a assez peu de textes qui nous parlent d'eux. Et c'est vrai qu'en dehors des textes égyptiens, on a des traces archéologiques. Par exemple, Pylos en Grèce va être complètement détruite. La ville ne va jamais être reconstruite suite au passage des peuples de la mer. Ils détruisent beaucoup, mais finalement, quel est leur but ? C'est assez compliqué finalement de le déterminer parce qu'ils détruisent, mais finalement, ils ne s'installent pas.
Oui, parce que les Vikings pouvaient s'installer,
donc,
par exemple.
C'est ça, c'est ça. Et donc là, c'est pas leur cas. Et là où c'est en plus compliqué, c'est qu'on se rencontre. Donc par exemple, on a Meremta, donc il y a un souverain égyptien qui est un des fils de Ramsès II, et un peu plus tard le roi Ramsès III, qui donc successivement vont repousser les attaques de ces peuples de la mer. Et lorsqu'en fait ils donnent finalement le détail de ces peuples, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas toujours les mêmes. Donc, on n'a pas forcément en fait, des mercenaires finalement du même lieu géographique qui se retrouvent à l'intérieur. Oui. Alors, pour vous donner en fait, quelques exemples, par exemple, sous Ramsès III, on a des peuples qui ont été identifiés aux Philistins, qui ont été identifiés à des habitants qui venaient d'Anatolie occidentale, aux Dardaniens. Et après, il y en a d'autres. On ne sait pas exactement très, très bien d'où ils venaient. Et donc, c'est vraiment une question qui est alors est passionnante, mais malheureusement, pour l'instant, on n'a pas du tout les clés de réponse. Voilà, on ne sait pas en fait quelle était leur
langue ils parlaient.
Et non, puisque si on a autant de peuples différents, parce que là, c'est quand même un exploit de se dire qu'il y a autant de gens différents, donc qui parlent des langues différentes et qui finalement arrivent à s'associer pour faire des raids, et puis en même temps, ils ne s'installent pas. Donc, c'est très intriguant et pour le coup, mystérieux. Là, on a un vrai mystère.
Oui, et puis. On parle également des Perses. Il faut dire que l'Empire était très étendu. Est-ce qu'eux aussi ont eu un rôle à jouer ?
Et alors, rôle à jouer, en tout cas une influence dans le récit de Platon, moi ça j'en suis persuadée, parce qu'en fait, Platon n'écrit pas ce récit par hasard. Il a quand même plus de 60 ans, ce qui est extrêmement vieux quand même pour l'époque.
Et quelle mémoire !
Oui, et en plus, ce qui est quand même génial, c'est que quand il écrit, donc il fait tout dire à son cousin qui est déjà mort depuis assez longtemps.
Donc oui, c'est ça, un c'est peu facile, assez, comme, voilà, ça,
c'est comme ça, c'est assez pratique. En fait, quand il en parle, il en parle comme une espèce de buzz, vraiment. Il dit que c'est vraiment le scoop du siècle. Et puis là, c'est que quand... En fait, j'étais en train d'écrire mon livre, je me dis, mais pourquoi, en fait pourquoi il a écrit ça? Il doit y avoir quand même une bonne raison. Et puis, je me dis, et puis pourquoi il écrit ça aussi tard? Il nous dit que c'est un scoop. Pourquoi il n'écrit pas plus tôt? Puisque son cousin lui a dit, mais bien, bien, bien longtemps avant qu'il n'écrive ça. Et donc, pour moi, il y avait une raison, et je me dis, il doit y avoir une raison politique, il doit y avoir un lien avec la situation d'Athènes à l'époque. Et donc, j'ai fait des recherches, et effectivement, c'était, on va dire, le petit bout de puzzle qui manquait et qui s'ajustait mais absolument parfaitement au reste. Au moment où, en fait, Platon écrit on a une menace. Alors, on a vu déjà une menace de Thèbes, qui est une des cités rivales d'Athènes. Donc, on connaît bien sûr Sparte, qui est, on va dire, l'ennemi, la meilleure ennemie d'Athènes. Sauf qu'à cette époque-là, Sparte, finalement, a fait une coalition avec Athènes, parce que la cité de Thèbes est une cité qui prend vraiment un ascendant très, très important. Donc, au moment où il écrit Athènes, ça fait très longtemps qu'elle a perdu son hégémonie de cité vraiment d'importance en Grèce. Et puis, on a une espèce d'ombre qui arrive progressivement sur la Grèce, et ce sont effectivement...
Alexandre.
Il y a eu les Perses, bien avant eux, puisque les Perses, à plusieurs reprises, les Athéniens, incursions. Vont effectivement être aux prises des Athéniens. À plusieurs reprises, on a quand même Athènes qui, parfois, seule, va motiver ou même va aller au combat, toute seule, contre les Perses. Donc là, on a très, très clairement un modèle, effectivement, que Platon avait vraiment quasiment, on va dire, servi sur un plateau. Et donc, à son époque, on a quand même une autre menace qui plane. Et effectivement, c'est les armées de Philippe II de Macédoine. Et donc, là, le but était très, très clair. Pourquoi Platon a écrit Athènes? Parce qu'il a écrit l'Atlantide. Parce qu'il est à une période où, en fait, l'armée athénienne n'est vraiment pas au fait, on va dire, de sa gloire. Et qu'il faut arriver à trouver un moyen, finalement, de regalvaniser les troupes.
Et de resserrer la
bien sûr. Et puis, finalement, de se resserrer autour de la fierté d'Athènes. Je veux dire, on parle d'Athènes, on ne parle pas de Delphes, on ne parle pas d'Olympie. On parle donc vraiment d'une cité qui a joué un rôle très très important à plein de reprises dans l'histoire, et donc c'est pour ça qu'on a l'armée athénienne dans le récit de Platon, qui finalement est au cœur de son récit. C'est l'armée athénienne qui a réussi à défaire les Atlantes, et les Atlantes qui avaient finalement qui dominaient toute la Méditerranée, un peu à l'image donc des peuples de la mer. Et on a également cette armée athénienne qui, donc, toute seule, va réussir à défaire donc cette armée des Atlantes, comme l'armée athénienne a pu le faire à certains moments de son histoire avec les Perses, et comme elle ne peut que le faire avec, justement, cette menace macédonienne qui arrive.
C'est un super menteur, quand même, hein?
C'est un super menteur, mais un menteur génial.
Oui, génial.
Mais un grand menteur, quand même.
Je ne peux m'empêcher de sourire en pensant que nous avons eu récemment un président des États-Unis qui avait l'art également de galvaniser certaines foules en montrant que son pays était au-dessus de tout. Alors, comme quoi, il y a des antécédents. Alors, évidemment, on pourrait en parler encore parce que c'est une super menteur quête que vous nous présentez, et je dois dire que moi j'ai appris beaucoup de choses, j'ai pas encore tout assimilé, parce que vous voyez, les peuples de la mer, je suis incapable de vous dire encore les noms de ces personnages, pour terminer, je voudrais dire que vous me disiez un mot sur les Égyptiens, parce qu'il y a un conte sur papyrus. Ce conte sur papyrus, vous en avez parlé.
Oui.
Voilà. Hein? Donc, il existe quand même, lui.
Ah oui, tout à fait.
D'accord. Bon, on pourra le lire. Alors, je voulais aussi dire que l'année prochaine, il y aura un anniversaire. En septembre 2022, on fêtera Champollion, qui, en septembre 1822, âgé de 32 ans, déchiffra les premiers cartouches royaux de la pierre de Rosette. Vous allez lui rendre hommage.
Certainement, à travers une des vidéos, je pense, des chaînes Toutankhatu et Néfertitube.
Voilà. Alors, on va en parler, parce que vous avez créé deux chaînes. Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, alors la première, c'est Toutankhatu. Donc, c'est une chaîne qui, alors, à l'origine, est destinée aux adultes. Mais...
Je l'appelle T-O-U-T-A-N-K-U-T-U-B. Oui, en plus. Toutankhatu, voilà. T-O-U-T-A-N-K-A-T-U-B. Toutankhamon, évidemment, on pense à... Oui,
oui, voilà.
Pour les adultes.
C'est la référence. Donc, alors, pour les adultes, mais je me suis rendu compte, alors avec surprise et finalement beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup d'enfants qui me disent « Ah oui, moi j'ai regardé telle et telle vidéo. » Je dis « Ah bon ?» Parce que bon, pour moi, je pensais qu'ils étaient un peu petits pour ça. Donc non, finalement, c'est une chaîne qui est faite pour adultes, mais qui peut plaire aux enfants. Et effectivement, un peu plus récemment, j'ai lancé Néfertitube. Bon, là, pas besoin de l'épeler, je pense, c'est assez facile à retenir. Néfertitube, oui. Qui est vraiment destiné aux enfants à partir de 7, 6, 7 ans et aux enseignants. Donc, le but, en fait, c'est de leur donner des vidéos on va dire, 5, 7 minutes à peu près en moyenne sur le pharaon, sur Osiris, sur le métier d'égyptologue, compter en égyptien, trop facile. C'est une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps et des petits exercices à faire à la fin.
Alors, donc, enfants, parents, grands-parents, allez sur Toutankhatu et Néfertitude. Toutankhatu et voilà, et Néfertitude. C'est un bon exercice d'élocution. Allez voir cela, parce qu'effectivement, de toute façon, l'Antiquité passionne tout le monde. Encore et toujours.
Ah mais tout à fait, et justement un peu le but de ces deux chaînes, enfin en tout cas surtout de Toutankhatu, c'est de sortir un peu des sentiers, on va dire, battus et rebattus, dont je n'en peux plus, notamment à la télé, où en fait c'est toujours la même chose qu'on nous présente, et puis souvent avec
alors,
donc, des secrets et autres.
Alors, à bas les fake news,
Oui, c'est ça. Bah, d'ailleurs, la dernière vidéo, c'est 5 fake news antiques sur la mort de Cléopâtre.
Ah bon ? Alors, Amandine Marchal, un grand merci. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de votre ouvrage intitulé « Atlantide, un mythe de l'Égypte antique ?» point d'interrogation, paru à Mondes Antiques. Voilà, un ouvrage qui nous rend plus cultivés, sans doute plus intelligents. Merci.
Merci à vous, au revoir.